Et avec Léa Salamé, nous vous proposons ce matin un grand entretien en forme de débat, nouvel épisode de cette série pour analyser par-delà les candidates et les candidats, par-delà les programmes, la toile de fond de la campagne présidentielle. On parle ce matin de l'universalisme républicain, cette idée que la République ne connaît que des citoyens indépendamment de leur genre, de leur couleur de peau ou de leurs origines.
Oui, mais ça c'était avant qu'un mot vienne percuter la France. Et la quiétude qui était jusque-là la sienne, bien sûr. Un mot qui enflamme certains déjeuners familiaux, les plateaux des chaînes d'infos, voire les conférences universitaires. Ce mot tient en quatre lettres. Woke, littéralement ça veut dire être éveillé, par extension être vigilant à toute forme de discrimination. On va le voir, ce concept vient des mouvements antiraciaux américains.
Et la promesse universelle de la République tient-elle toujours ou faut-il d'autres moyens pour parvenir à l'égalité? On pose donc la question ce matin à Alice Coffin et Brice Couturier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et bienvenue sur France Inter. Alice Coffin, vous êtes conseillère municipale EELV de Paris, autrice du génie lesbien chez Grasset. Brice Couturier, vous êtes journaliste, essayiste, contributeur de la nouvelle revue Franc-Tireur et auteur de Hockey Millennial, publié aux éditions de l'Observatoire. Pour vous, Brice Couturier, le wokisme est un dangereux fanatisme. On va vous donner la parole dans un instant. Mais pour commencer, dites-nous, Alice Coffin, si pour vous, woke est une insulte ou une fierté, et si vous vous diriez woke, tout simplement.
Alors, non, woke, je crois que c'est surtout un des nouveaux mots chimère, fable, qu'on a vu arriver dans le débat public. On a eu cancel culture très vite rattrapée par islamo-gauchisme, et puis maintenant c'est woke. Dans un mois, ça sera autre chose. Pour offrir un front qui soit politique et macroniste, hein, surtout très utilisé par le gouvernement, parce que quand je dis le terme islamo-gauchiste, il y avait eu une offensive lancée par la ministre de l'Enseignement supérieur contre ce terme-là. Là, on voit le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, créer un think tank contre le wokisme.
Ça vient pas seulement, les critiques ne viennent pas seulement du gouvernement. Vous voyez, Michel Barnier, par exemple, LR, lors du dernier débat sur CNews, a parlé d'un enjeu de civilisation face à l'idéologie du wokisme qui veut détruire le fondement de notre cohésion nationale.
Oui, donc c'est politique aussi, hein, Michel Barnier.
C'est politique mais puis, vous dites c'est réservé. Enfin, ça vient du gouvernement, ça vient plus large.
Assez plus largement, disons d'une offensive contre finalement un terme. Vous me demandez. Moi, je suis une des représentantes, comme on est heureusement pas mal et de plus en plus en ce moment, des personnes qui, en France, luttent pour l'égalité. Et c'est quand même très nouveau que ça soit taxé de grands dangers pour la République. Voilà, c'est une inversion, en fait. On assiste vraiment, c'est une inversion, mais c'est important parce que ça se joue sur le langage. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est une bataille culturelle et ça veut dire que c'est un moyen trouvé. Alors, et par les politiques, et par une certaine frange, vous avez cité la revue Franc-Tireur, mais c'est auquel dont la rédaction s'attache effectivement.
On va lui donner la parole.
Particulièrement à parasiter le débat, et tout ça est quand même très chronophage, alors que derrière, je pense qu'effectivement la République a un certain nombre de problèmes très graves à résoudre.
Brice Couturier, pourquoi dites-vous que le wokisme est un virus dangereux en train de s'attaquer aux valeurs républicaines? Pour vous, c'est quoi? C'est une nouvelle religion? C'est un fanatisme? C'est une maladie en tout cas, si vous parlez de virus?
Oui, woke, effectivement, ça, à mon avis, ça veut pas dire éveillé, ça veut dire to stay woke. Stay woke, c'était le titre du film qui a donné son nom au mouvement. Stay woke, ça veut dire rester en éveil. Moi, je traduis volontiers woke par conscientiser, qui était un mot qui était très porté dans les années 70 par l'extrême gauche, et je pense que ça revient à peu près au même. C'est l'idée que il faut être en permanence vigilant vis-à-vis d'une société qui est décrite structurellement comme oppressive, invisibilisant, comme ils disent, les minorités.
Jusqu'ici, tout va bien.
Oui, on est d'accord.
Conscientiser, c'est pas mal.
Moi, je me méfie de la vigilance parce que ça me rappelle des souvenirs de la Révolution française, quoi. Il y avait les vigilants. C'est ceux qui sont, si vous voulez, cette vigilance, elle est toujours l'objet d'une formation particulière et primordiale. C'est l'idée que quand on a été dans les studies américaines, les queer studies, les gay studies, les women studies, les black studies, on est formé à voir des inégalités et des oppressions que la personne normale ne voit pas. Or, si vous voulez, moi, ce qui me semble être derrière, c'est un total bouleversement du champ politique. Le champ politique était organisé entre une droite et une gauche autour des choses qui étaient simplement des intérêts. Or, là, on passe du côté des identités. Les identités ne sont pas négociables, les intérêts le sont. Quand on négocie entre patrons et ouvriers, entre salariés et du public et du privé, on peut trouver des compromis. Quand vous dites « je suis noir, c'est mon identité et c'est ma politique », il n'y a pas de négociation possible. Si vous dites « je suis lesbienne et donc je romps avec l'humanité masculine parce qu'elle est oppressive de nature », il n'y a pas de négociation possible. On sort du champ démocratique traditionnel tel que nous l'avons construit jusqu'alors et on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus dangereux.
Parce que je dis « je suis lesbienne, je sors du champ démocratique ».
Oui, alors
allez-y. C'est intéressant dans ce que vous dites, parce que d'abord vous remontez à la Révolution française, et je pense que ça c'est intéressant, parce qu'il y a effectivement une espèce de peur, panique, je pense, du coup, de tout ce qu'on a qualifié des excès de la Révolution, etc., qu'on revient toujours à ce langage des excès en France, c'est-à-dire que dès qu'il y a eu le mouvement MeToo, par exemple, c'était tout de suite, ah mais attention aux excès, donc à chaque fois, on a cette focalisation, cette obsession, en fait, pour les excès. Là, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas en train de parler d'une révolution armée, on est en train de parler d'une évolution, d'un mouvement qui est, moi je crois, très énergique et très plein de joie, qui va pour continuer à essayer qu'on fonde une société, une république qui prenne en compte un peu plus largement des discriminations.
Énergique et joyeux, le mouvement, dites-vous. Expliquez.
Oui, regardez les gens qui sont dans la rue, qui je pense sont volontiers qualifiés de woke, quoi. C'est-à-dire que c'est plutôt, je sais pas, c'est plein d'espoir. Et en face, il y a ce mur là et ce mur qui est politique. Qui est,
vous la voyez pas l'énergie et la joie, voilà. Brice Couturier?
Non, moi non, c'est pas ce que je vois. Non, je vois le contraire.
Vous voyez quoi?
Peur. Non, parce que je pense que la France est un pays républicain, assis sur les lumières, l'idée de la raison, et que donc par conséquent, ces idées américaines ne prendront pas chez nous parce qu'on n'a pas du tout le même passé. Il y a simplement des
Ramayad,
gens qui...
Si je peux me permettre, Ramayad, dans une interview à l'Express, dit cette chose-là. Elle déclare que de Lacan à Foucault, ce sont les penseurs français qui ont inspiré le mouvement woke. Soyons-en fiers en tant que Français. Vous n'êtes pas d'accord avec elle?
Si, c'est la thèse de mon livre précisément. Oui. Il y a un chapitre entier qui est consacré
donc
à
c'est
ça.
Pas que américain,
donc ça nous revient.
Que...
Non mais si vous voulez, les Américains sont gentils, mais leur lecture de Foucault était un peu primitive, si vous voulez bien mon avis. Ils ont conclu de Foucault, d'une lecture assez facile et légère de Foucault, que tout savoir était une forme de pouvoir et que donc tout savoir avait pour seule vocation de légitimer le parti au pouvoir et la classe au pouvoir ou le genre au pouvoir. Foucault, c'est un peu plus subtil que ça. Le problème, c'est que ça nous revient en boomerang, cette fameuse French Theory, avec beaucoup de retard, parce que la French Theory et la déconstruction, ça date des années 70 déjà. Mais ça a donné aux États-Unis une espèce de reconstruction des savoirs sur une base purement identitaire, où on dit que finalement, c'est le ressenti collectif de certaines minorités qui doit constituer la base d'un nouveau savoir. Et c'est d'ailleurs la thèse très très bien défendue dans son livre par Alice Coffin qui est ici. C'est exactement ce qu'elle dit.
Mais en quoi le ressenti ne serait pas un sujet politique?
Ben parce que le ressenti, il y a encore une fois, le dialogue entre les différents ressentis, il peut pas avoir lieu. En fait, ce à quoi nous assistons, c'est à une répartition des savoirs culturels et politiques au sein d'une élite sociale qui est déjà formée. Il y a des représentants autoproclamés, et ça rejoint aussi ce que disait Alice Coffin à l'instant, il y a des représentants autoproclamés qui sont les plus radicaux, parce que c'est ceux que les médias repèrent au sein de ces différents mouvements identitaires, qui ont pris en otage...
Mais vous étiez à la manif samedi 20...
Manifestation,
c'était la grande manif féministe, puisqu'aujourd'hui on est le 25 novembre. Vous avez vu qui était dans la rue? C'était des lycéennes, c'était pas des représentants autoproclamés,
oui,
des élites,
vous, au contraire, des personnes... Vous faites partie de ces élites qui parlent au nom des lesbiennes et elles ne vous ont pas désigné. Il n'y a pas eu des élections au sein des lesbiennes pour dire ce sera Alice Coffin, notre représentante.
Non, je
voyez.
Vous confirme, en fait, c'est ça
qui me gêne beaucoup. Parce que ça,
ce n'est
pas démocratique. C'est pas démocratique.
Vous représentez qui?
Moi, je ne représente personne, je suis un citoyen. Justement, je ne suis pas identitaire, moi. Moi, je me suis battu toute ma vie pour l'idée d'universalisme.
Vous avez écrit un livre, vous êtes invité. Moi, j'ai écrit un livre, vous voyez, je n'ai pas été spécialement beaucoup invité, mais là, je suis invité aussi. J'ai écrit un livre, on a les mêmes droits, en fait. Moi, je crois que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que ce qui se passe, c'est que l'assiette médiatique, l'assiette politique, elle est en train de s'élargir. Le gâteau, et là, c'est insupportable pour certains, et ce sont des rapports de pouvoir, en définitive. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on me dit, oui, mais est-ce que ces intellectuels-là, tous ces gens-là, ils ne sont pas droitisés? Moi, je ne crois pas. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que...
De quels intellectuels vous parlez?
Bah, en fait, intellectuels ou représentants politiques, ou si vous voulez, on va dire, par exemple, si on schématise le parti socialiste, ce qui représentait la gauche française, type, je ne sais pas, moi, l'Obs, les socialistes, Libé, etc. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout d'un coup ils s'opposent finalement? Certains de leurs, moi je l'ai vu à la sortie du génie lesbien, pourquoi est-ce qu'ils s'opposent à ces mouvements qui naissent, etc.? Est-ce qu'ils se sont droitisés? Je crois pas, je crois que les mouvements, vous citez en début de votre livre, vous mettez quatre noms, vous commencez par Sandrine Rousseau, puis Camélia Jordana, puis moi, puis Rokhaya Diallo. En fait, par exemple, ce que je dis ou ce que dit Rokhaya Diallo, il y a toujours eu des gens pour le dire, il y a toujours eu des gens pour le vivre, sauf qu'avant, on n'était pas publié par les grandes maisons d'édition, on n'était pas invité sur les plateaux. Donc là, il y a eu un mouvement, une lutte qui a permis l'accès à cette parole publique, ce qui est insupportable pour certains. Et je crois que c'est ça qui joue dans ce moment-là. Quand vous renvoyez aux États-Unis, mais vous savez, aux États-Unis, c'est exactement la même chose. Sur le mot woke, Alexandria Ocasio-Cortez, elle rappelle justement que maintenant, elle a eu une phrase en disant, bon, écoutez, maintenant, le mot woke, de toute façon, c'est surtout un truc utilisé par les experts de Fox News pour décrédibiliser les combattants contre la discrimination.
Obama l'utilise, vous savez qu'Obama l'utilise pour le critiquer aussi. J'ai mis sur les réseaux sociaux une interview d'Obama, enfin, une conférence d'Obama où il met en garde ses propres partisans contre le wokisme.
Brice Couturier, Alice Coffin le disait à l'instant, vous la citez. Dès la première page du livre, vous citez le génie lesbien, nous avons le pouvoir, voilà la citation, nous avons le pouvoir, sans les éliminer physiquement, de priver les hommes de leur oxygène, deux points, les yeux et les oreilles du reste du monde. Fin de citation. Qu'est-ce qui vous gêne dans cette phrase ?
Ce qui me gêne, c'est l'oubli de l'universalisme. Moi, je fais partie d'une génération et d'une idéologie, disons, qui croit à l'idée d'universel, qui pense que les savoirs sont basés, que le fait que ce soit un Anglais du XVIIe ou XVIIIe siècle comme Newton qui ait découvert la loi de la gravitation fait que la loi de gravitation, elle peut être admise par tout le monde. Là, on a affaire à des gens qui essayent d'essentialiser des identités de genre. Pourquoi ces identités-là, entre parenthèses? Il y en a des tas d'autres. Je conseille aux auditeurs de France Inter le livre de Kwame Anthony Appiah qui vient de sortir, qui s'appelle Repenser l'identité. Kwame Anthony Appiah, c'est un philosophe américain très intéressant parce que il est de père ghanéen et de mère anglaise et il vit aux États-Unis et il est de formation britannique. Et il vous explique très bien que les identités qu'on choisit aujourd'hui, les partis identitaires, sont des identités construites de toutes pièces socialement. Pourquoi les identités aujourd'hui sont les identités de genre ou de race, pourquoi pas les identités régionales? Moi, j'ai connu dans les 70 un mouvement occitan, un mouvement breton. Bizarrement, là, maintenant, on veut enfermer les gens dans leur couleur de peau. Moi, je me suis battu toute ma vie pour les slogans de Martin Luther King.
Vous pensez qu'être lesbienne, c'est comme être bretonne ou
vous faites un parti avec les lesbiennes comme on fait un parti avec les bretonnes, avec les bretons.
Alice Coffin, vous assumez la radicalité. Vous l'écrivez aussi dans votre livre, vous le dites. Je vais vous citer. Les hommes tuent les femmes sans relâche, ils les violent sans cesse, ils les agressent, les harcèlent, les enferment, les exploitent. Je vous cite encore. Je ne dis jamais que les hommes ont tout à gagner au féminisme, c'est faux. Ils ont tout à perdre. Leur privilège, leur monopole, leur pouvoir, c'est un combat. Ne le menons pas ensemble. Donc, selon vous, le féminisme est une guerre contre les hommes, en tout cas pas avec eux. C'est ça votre idée de base ?
Non, c'est que le féminisme...
C'est ce que vous écrivez. Hein.
Non. Vous n'avez pas dit le féminisme était une guerre contre les hommes, à aucun moment.
Les hommes ont tout à perdre au féminisme.
Oui, voilà. Donc, pourquoi? Mais en commençant par dire les hommes tuent les hommes. Le féminisme est une réponse à une guerre qui a été menée et qui est toujours menée par les hommes contre les femmes. Enfin, appelez-la comme vous voulez, si vous voulez. Mais quand je commence par là, ça veut dire quoi? Quand on a effectivement tous les jours, dans le monde, tant de meurtres, de viols de femmes, depuis des millénaires, oui, j'appelle ça un combat, un massacre mené par un système qui a mis le masculin, les hommes dans une certaine situation contre les femmes. Et le féminisme est juste une réponse à ça.
Les hommes ne peuvent pas être féministes, vous ne pouvez pas travailler main dans la main pour défendre les valeurs du féminisme avec les hommes. Par leur genre, ils sont disqualifiés.
Non, concrètement, c'est ce qui se passe. Moi, je bosse évidemment au quotidien avec des hommes là-dessus. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que pendant longtemps, en fait, on a dit c'est complémentaire, ils peuvent, tout le monde a à y gagner. Et je crois que si on dit ça, en fait, on va pas y arriver. Depuis des années, on dit, mais tout le monde a gagné au féminisme. Tant qu'on n'admet pas aussi que, il y en a qui vont perdre. Et en l'occurrence, les hommes qui, dans notre société, sont dans une catégorie où c'est plus simple pour eux, gagner leur vie, et tout ça. Bah oui, ils vont manifestement perdre, même très concrètement. Si vous ramenez à une inégalité des salaires pour un combat féministe, oui, les hommes auront quelque chose à perdre.
Brice Couturier, comment vous recevez les propos d'Alice Coffin, vous qui vous proclamez baby boomer, on dit boomer maintenant et c'est pas un compliment.
Écoutez, moi, je pense qu'Alice Coffin est parfaitement représentante du système woke, de l'importation des idées woke américaines que je combats dans mon livre. Elle écrit, et je vais la citer parce que pour moi c'est extravagant, « Comme le cinéma, le pouvoir ou la politique, l'information en continu est une excroissance de la masculinité toxique. » Elle écrit aussi « L'art est une extension de l'imaginaire masculin. » Autrement dit, elle estime que toute notre société est basée sur, systématiquement, sur une masculinité toxique. C'est extravagant. C'est extravagant
mais oui,
de penser
non,
que l'art, elle dit aussi que le roman a été construit d'après des normes masculines. Enfin, elle a lu Jane Austen un petit peu. Est-ce que Jane Austen, c'est un auteur masculin? Est-ce qu'elle a été obligée de elle dit que la linéarité est masculine. Enfin, bref, tout ce sur quoi repose notre culture, vous laissez-moi parler, s'il vous plaît. Tout ce sur quoi repose notre culture est masculin et donc toxique. C'est totalement extravagant. Ça exclut de l'humanité la moitié. Et surtout, c'est une façon, à mon avis encore plus grave, de mener une révolution culturelle. C'est-à-dire de détruire les bases mêmes de la société sur laquelle nous sommes assises, les bases culturelles, on vient de le dire, mais aussi les bases politiques. Encore une fois, la politique, la démocratie, c'est la confrontation des intérêts et encore une fois, la confrontation entre les identités ne peut pas être négociée, n'est pas démocratique,
sort
du cadre
démocratique. Alors,
non, mais attention, pour le coup, quand on dit justement éveillé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'essayer de comprendre ce qu'on nous a donné à lire comme livre, à voir comme film, à écouter comme discours politique, à visiter comme musée, est évidemment imprégné par ce qu'on appelle maintenant le male gaze, regard masculin, par un, bien évidemment, les structures du pouvoir, je vois même pas comment vous pouvez le nier, en fait, ont été forgées par les hommes, pour les hommes. C'est quelque chose de très factuel. Si vous prenez le champ politique, les femmes en étaient...
Et le roman fondateur de la culture française. Et c'est pas un roman masculin, il est pas masculiniste.
Alors, si vous... Vous regardez un peu les statistiques sur les prix littéraires, les autres choses.
Oui, j'ai lu dans votre livre que 89% de...
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de la création artistique. Ça veut dire que ce champ-là aussi est évidemment soumis aux structures de pouvoir qui sont régies, ce qui existe dans la société.
C'est vrai ce que vous dites. Vous dites que le roman est construit, que un récit linéaire construit sur l'accumulation, la binarité, l'historique, le progrès, montre que le roman est basé sur des valeurs masculines.
Mais comme dans les formes.
Attendez, la linéarité est masculine, le progrès est masculin.
Mais alors, c'est une question, ouais, non, mais de standards qui ont été forgés.
Le progrès, c'est masculin.
C'est une question de standards qui ont été forgés autour du concept de masculinité. Mais c'est rien de très révolutionnaire, de ce que je dis. Et c'est l'évidence aussi en politique. C'est pour ça que c'est si dur pour les femmes en politique, par exemple. Parce que ce récit-là du politique, cette manière de faire de la politique, il a été fondé en fonction des hommes.
Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Vous pensez pas que c'est plus dur pour une femme de faire de la politique?
Oui, mais ça n'a rien
diriger.
À voir avec l'idée de dire que le progrès, le roman ou l'art en général sont entièrement masculins.
On va passer au standard. Il y a énormément de questions sur l'application d'Inter et au standard. C'est Martial. On me dit que vous êtes en voiture, Martial.
Non, je ne suis pas en voiture.
Ah bah c'est...
ça
s'appelle du...
Maison.
Ça s'appelle du fact-checking. Bonjour Martial, on vous écoute.
Alors écoutez, la question elle s'adresse plutôt à votre invitée féminine. Je suis un mâle blanc. Je ne le revendique pas particulièrement, 64 ans, enseignant. Et donc, je n'ai jamais eu l'intention, et ni même pendant 42 ans, d'écraser mes élèves par un certain machisme, ni mes collègues, puisque c'est un métier qui est quand même, comme vous le savez, très féminin, plutôt à vocation sociale. Et voilà, donc...
Vous ne vous sentez pas, représentant de la domination masculine, c'est ça ce que vous nous dites, Martial ?
Pas du tout. Vous savez, socialement, j'ai revendiqué, je suis syndicaliste. Alors, je suis aussi, je suis divorcé, j'ai trois enfants, je suis homo et je ne revendique pas non plus mon homosexualité. Je la sors pas comme une carte à jouer. Hein. Voilà.
Merci Martial pour cette intervention que je livre à Alice Coffin puisque Martial vous interpellait.
Mais je sais pas si je voulais des félicitations. Bravo et non, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas personne n'est en train de dire que enfin tous les hommes ça veut pas dire chaque homme quoi. C'est vraiment c'est toujours la description d'un système auquel on appartient d'ailleurs qu'on soit né homme ou femme et auquel on est soumis.
C'est hallucinant les réactions que vous provoquez l'un et l'autre sur l'application France Inter. Mais c'est très bien. Mais alors des pour, des contre et des tout au contraire. Vous par exemple, Marie Martin, Alice Coffin. Bonjour madame, je suis féministe. Du moins je me pense féministe et je suis enclinte à l'écoute et à l'éveil des esprits. Cependant, je ne peux pas entendre les lignes que vous rédigez. Il est difficile pour moi d'arriver à détester les hommes comme vous le faites, car le féminisme est pour tous les hommes. Vous, c'est pour vous, Brice Couturier. Muriel Barthélémy, Brice Couturier illustre parfaitement comment le dominant explique aux dominés comment ils doivent lutter pour leurs droits sans le remettre en cause. Il y en a comme ça, mais
des dizaines.
Et moi, ce que je voudrais surtout souligner, c'est pour les auditeurs de France Inter, c'est les gens qui ont vécu comme moi les grands combats contre le racisme, contre la discrimination sexuelle des homosexuels et pour l'égalité des femmes. Ne croyez pas que l'idéologie woke est dans le prolongement de ces mouvements-là. C'est le contraire, c'est leur trahison même. Nous avons lutté pour l'universalisme, nous avons lutté pour les mêmes droits pour tous. Ces gens-là luttent en réalité pour c'est une lutte de pouvoir, pour une représentation plus importante des représentants.
Vous savez par qui elle était soutenue, Sandrine Rousseau ?
Jane
Fonda, Annie Ernaux. Il n'y a pas du tout un truc seulement générationnel. Heureusement, et moi,
dans mes exemples,
aussi des femmes, féministes du MLF qui m'ont formé là-dessus. Ça n'est pas vrai, cette histoire générationnelle. C'est pas parce que quelques-uns d'entre vous sont terrifiés et
ont
peur.
Non, on n'est pas terrifiés. On est juste vigilants.
Évidemment
et conscients.
Ça s'inscrit dans des combats.
On est conscients de l'arrivée d'une révolution culturelle qui est en train de remettre en cause les fondements même de notre démocratie.
Je crois que vous avez très peur et il n'y a pas de quoi avoir peur. Encore une fois, d'un mouvement joyeux, énergique.
Les attaques contre le sens commun que vous menez en permanence nous font monter l'extrême droite de manière épouvantable.
Alors là,
je
ça
veux
non,
pas.
Ça
mais
non.
si, mais si, parce que Trump, c'est la réaction
non, non,
à la politique
c'est gravissime,
des identités.
C'est gravissime.
On a Zemmour. À cause des gens comme vous, on a Zemmour maintenant.
Alors ça, c'est gravissime, parce que Éric Zemmour, qui demande à ce qu'Éric Zemmour soit systématiquement, quand il est interviewé, interrogé sur les femmes qui l'ont accusé pour agression sexuelle? Ça sera l'objet d'ailleurs, on est le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Ça sera l'objet d'un rassemblement ce soir, 18h30, place Saint-Augustin, à Paris, pour réclamer également le départ de Gérald Darmanin. Si les personnes qui luttent précisément au quotidien contre Éric Zemmour, malgré les attaques, c'est effectivement ceux que vous qualifiez de woke. Parce que moi, je vais vous expliquer. Nous, on s'en prend jamais à vous. Mais jamais on vous cite. Et vous venez tout le temps nous harceler sur Twitter, d'ailleurs, parce que franchement, là aussi, j'aurais dit l'action de Franc-Tireur. Et plus largement, c'est quand même une bande de harceleurs aussi, directement.
Il reste deux minutes.
On ne s'occupe jamais de vous. On ne vous cite pas, on ne vous parle pas. C'est vous. Pourquoi est-ce que vous avez besoin, pour exister, de venir chercher dans ces mouvements très énergiques et qui sont effectivement les mouvements pour l'égalité et les grands mouvements d'aujourd'hui?
Une question, pas pour l'égalité.
Une question à chacun d'entre vous. Comment réagissez-vous à l'affaire Hulot, ce soir, envoyé spécial sur France 2, va donner la parole à plusieurs femmes qui disent avoir été victimes d'agressions sexuelles de la part de Nicolas Hulot. Il s'en défend, il nie les faits, il dénonce un système qui est en train de perdre la raison, une justice qui se déplace sur les plateaux de télévision, des journalistes devenus procureurs et juges. On rappelle que Nicolas Hulot fut tout de même un compagnon de route d'Europe Écologie Les Verts, dont vous êtes une élue, Alice Coffin. Alors donc, votre regard sur ce sujet-là, puis Brice Couturier.
Ben non, mais exactement, c'est-à-dire que Monsieur Courtier, je crois que vous qualifiez la culture du viol de mythe dans votre livre. Et ben justement, on assiste exactement à ça, et notamment dans les interviews qui ont été, enfin l'interview qui a été donnée par Nicolas Hulot hier. Alors même qu'on n'a pas encore attendu la parole des femmes qui témoignent, c'est gravissime. Nicolas Hulot, c'est pas nouveau, ça fait plusieurs années. On sait, il a été reçu, y compris dans cette matinale. On sait, et encore une fois, c'est comme pour Éric Zemmour, on ne l'interrogeait pas sur ces questions, alors que ça serve de signal, c'est-à-dire on vient de lancer un mouvement MeToo politique où justement on supplie les partis politiques d'évincer les hommes mis en cause pour agression.
Mais
c'est pareil pour les journalistes en fait. Il faut leur poser la question à chaque fois.
Je ne sais rien sur l'affaire Hulot. Moi, je fais confiance en la justice. J'aurais bien aimé que tout ça se déroule devant des tribunaux et pas sur les réseaux sociaux.
Et la presse,
quant à la culture du viol, moi, j'aurais bien aimé que les féministes comme Alice Coffin nous parlent un peu plus des femmes afghanes qui sont vendues à 9 ou 13 ans et arrêtez de nous faire croire que sur les campus américains, les femmes sont dans un état. On n'a jamais été dans une société de toute notre histoire et de toute l'histoire mondiale. Je pense que jamais les femmes n'ont été aussi en sécurité que dans nos pays par rapport à toute l'histoire qui précède.
Vous travaillez au quotidien avec les femmes afghanes,
et à tout ce qui... Pourquoi vous ne m'en parlez pas des femmes afghanes? Moi, j'en parle. Moi, j'écris dessus parce que ça m'intéresse, parce que ça me paraît beaucoup plus grave, femmes afghanes, que le mythe de la culture du viol sur les campus américains.
Il faut aussi s'occuper de ce qui passe dans d'autres pays. Moi, j'appartiens à une organisation qui s'appelle la Conférence européenne lesbienne et on travaille avec d'autres pays au quotidien là-dessus.
Pour faire croire que nous vivons dans une société. Cette société était extrêmement apaisée, était extrêmement égalitaire, elle progressait vers davantage d'égalité et tout ce que vous êtes en train de faire.
Pour qui elle progressait? Elle était apaisée, la société? Vous trouvez que c'est égalitaire? Vous connaissez?
Quand il y avait une succession centre-droit, centre-gauche, il y avait une certaine... Maintenant, on a Zemmour et les woke en face. Non, ça, c'est pas une société apaisée.
Non, maintenant, on est apparu, on a la parole et ça dérange votre petit monde bien tranquille.
Les Américains sont au bord de la guerre civile et je veux éviter la guerre civile à mon pays.
En tout cas, le débat n'était pas apaisé. Oui,
du tout.
mais c'est ainsi. Vous lirez, ouais. On vous transmettra les réactions sur l'appli Inter qui sont vraiment... C'est un tsunami. Il faut quand même préciser, c'est pour terminer, mais pour l'instant, nous on en parle parce qu'on pense que c'est un fait de société et que ça participe, c'est un fait de la campagne présidentielle, mais selon une enquête IFOP, seuls 14% de Français ont déjà entendu le terme de woke et 6% seulement savent ce que c'est.
Voilà. Je tiens à le dire. Il y a combien de gens qui savent ce que c'est et comment c'est utilisé,
il faut aussi dire
qu'ils l'ont apporté dans le débat de manière factice, quoi. C'est parce que c'était pas du tout.
Vous aussi, Alice, ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, ça reste quelque chose d'assez minoritaire.
C'est vous qui organisez ce débat. Moi, je suis d'accord avec ça.
On le revendique et on l'assume.
Ouais. Il est intéressant parce qu'il permet aussi, à travers le mot woke, de penser la question de l'universalité et de son efficacité aujourd'hui. Non, c'est pas un petit débat, c'est une vraie question. Je vous remercie tous les deux. Malheureusement, le temps presse. Alice Coffin, génie lesbien chez Grasset.
Bonne journée. Venez ce soir devant le ministère de l'Intérieur.
Brice Couturier, OK Millennials aux éditions de l'Observatoire.